Extrait numéro 10, chapitre 15. La maison Besborodko. J'étais sur mon balcon, et sans doute j'y fusse resté longtemps encore si l'on n'était pas venu me prévenir que l'on faisait une promenade dans le parc. Je n'avais encore vu le parc que des fenêtres de ma chambre à coucher. Je n'en avais donc qu'une idée fort incomplète. En arrivant sur le perron, on trouve devant soi une allée de tilleuls large d'une vingtaine de pieds, longue d'un kilomètre. C'est l'artère principale du parc. À droite et à gauche de cette grande allée, au-delà de parterres couverts de fleurs, au milieu de massifs de verdure, s'élèvent chacun sur son piédestal de marbre deux bustes de bronze quatre fois gros comme le comte Kouchelev, les deux sources de la famille Kouchelev-Besborodko actuelle. Le parc a plus de 3 lieues de tour. Il renferme dans son enceinte une rivière, un temple d'ordre corinthien, dont la rotonde abrite une statue colossale de Catherine II en Cérès. La statue est de bronze. Le prince Besborodko ne marchandait pas avec le métal. Deux villages et 150 ou 200 maisons disséminées et ayant chacune son jardin. Inutile de dire que c'est le parc qui renferme ces deux villages et ses 150 ou 200 maisons, et non la rotonde. Ce que les malintentionnés pourraient faire semblant de croire, vu la mauvaise construction de ma phrase. 80 domestiques, depuis le majordome jusqu'à la femme de cuisine, qui fait l'ouvrage noir, entre guillemets. On appelle faire l'ouvrage noir laver la vaisselle. Sont attachés au service seul du château. 2000 personnes habitent et vivent dans l'enceinte du parc. Tout ce petit monde intérieur adore le comte et la comtesse. Nous ne rencontrons que des visages épanouis, plus qu'épanouis, radieux. Disons tout de suite, peut-être n'aurions-nous plus l'occasion de le faire, que la statue de la grande Catherine a été fondue en mémoire de l'apparition qu'elle fit à la fête de son favori, Besborodko. C'est avec la statue d'Ekaterine Oslaf la seule image qui reste d'elle. Je ne parle pas d'une médaille d'argent que j'ai achetée. C'est la même d'après laquelle Michelet a fait le portrait moral de Catherine, dans quelques lignes pleines d'énergie. Michelet est sévère pour l'aventurière allemande, comme il l'appelle. Et c'est tout simple, il la juge au point de vue du meurtre de la Pologne. Mais s'il venait à Saint-Pétersbourg, s'il mesurait de près, avec sa rigide impartialité, l'œuvre accomplie par la veuve de Pierre II, il lui rendrait pleine et entière justice. C'est bien véritablement Catherine le Grand, comme l'appelait Voltaire, qu'il appelait encore la Sémiramis du Nord, sans doute en souvenir de ce que la Sémiramis de l'Orient avait empoisonné Ninus. Mais quand nous en serons là, nous verrons que, de même que Pierre Ier ne pouvait guère sauver la Russie qu'en se débarrassant d'Alexis, Catherine ne pouvait guère continuer l'œuvre de Pierre Ier qu'en se débarrassant de Pierre III. On ne nous accusera pas de partialité pour les rois. Mais je trouve que l'historien et même le romancier, cet historien du peuple, n'a pas le droit d'être injuste pour les rois pour cette seule raison qu'ils sont rois. Certes, un crime est toujours un crime, et l'histoire l'enregistre comme tel, mais de même que devant le jury, tribunal des hommes, il y a devant la postérité, tribunal des rois, des circonstances atténuantes. Vous ne mettez pas au même rang Guillaume Tell tuant Gessler pour délivrer la Suisse, et le curé Mingras coupant sa servante en morceaux afin de cacher sa grossesse. Revenons au parc du comte. 50 arpents à peu près de ce parc sont réservés pour le comte et sa famille. Et encore, le dimanche, ces 50 arpents sont-ils, comme le reste, livrés au public. 3 fois par semaine, on fait, pour le plaisir des promeneurs, de la musique dans ce parc. Le dimanche, cette musique, exécutée par les musiciens de quelqu'un des régiments en garnison à Saint-Pétersbourg, se fait devant le château, à 30 pas du perron, à l'entrée de cette grande allée dont je vous ai parlé et qui est une allée de tilleuls. Allée de tilleuls tout en fleurs, comme chez nous au mois de mai, quoique nous soyons ici à la fin de juin, et toute bourdonnante de mouches à miel. Lorsque la musique joue le dimanche, il y a 3 000 personnes en cercle autour du château. Pas un enfant. Disons tout de suite et en passant que les enfants, presque tous habillés du costume national russe, quelles que soient leurs conditions, c'est-à-dire avec le petit chapeau à plumes de paon, la chemise de soie rouge ou jaune, le large pantalon à raies perdu dans des bottes à revers rouges, disons tout de suite que les enfants sont charmants. Pas un enfant ne marche dans une plate-bande, pas une femme, nous voudrions pouvoir dire des femmes ce que nous avons dit des enfants, pas une femme ne cueille une fleur. Au milieu de la foule bigarrée, se promènent les nourrices avec le vieux costume russe, bonnet de drap d'or, robe à grandes fleurs. Chaque famille, même marchande, nous parlons des familles marchandes riches, tient à embellir sa nourrice. Quelques-uns de ces costumes valent 1 500, 2 000 francs. Ce qu'il y a de remarquable, surtout pour nous autres Français, naturellement bavards, c'est le mutisme de ces promeneurs et de ces auditeurs. Ce ne sont pas même des revenants, ces échappés de l'autre monde, comme vous savez, mettent généralement grand bruit, traînent des chaînes, poussent des gémissements, révolutionnent les meubles. D'autre part, les font même d'assez longs discours, témoins l'ombre du père d'Hamlet. Mais les Russes sont plus que des revenants. Ce sont des spectres. Ils marchent gravement les uns à côté des autres, ou les uns derrière les autres, ni tristes ni joyeux, sans laisser échapper une parole, sans mimer un geste. Les enfants eux-mêmes ne rient pas. Il est vrai qu'ils ne pleurent pas non plus. Il en résulte que les rues ressemblent à celles d'une nécropole le jour de la fête des morts et les jardins publics aux Champs-Élysées des Grecs. Il y a à Saint-Pétersbourg un seul passage. Il donne d'un côté sur la perspective, de l'autre sur la rue italienne. Du côté de la perspective, une des 3 grandes artères de Saint-Pétersbourg, il y a un café où vont les Français et où l'on se donne rendez-vous. De ce côté-là, le passage vit, parle, s'agite. Mais à mesure que l'on pénètre dans le passage, on entre dans une espèce de sépulcre où l'on sent graduellement le froid de la mort. À l'extrémité, le passage n'est plus qu'un cadavre. C'est un paralytique qui conserve sa tête, qui remue les bras, qui sent encore ses jambes, mais dont les pieds sont morts, les pieds sont gelés. Les cochers eux-mêmes ne crient pas comme ceux de Paris pour faire ranger les piétons à droite ou à gauche, ou pour que les autres cochers leur cèdent la place. Non, ils font entendre de temps en temps le mot « Berigissa » sur un ton plaintif, et voilà tout. Le mot « Berigissa » veut dire « Gare-toi ». Un Russe, transporté tout à coup de la perspective ou de la grande Morskoïe sur le boulevard des Capucines ou dans la rue de la Paix, deviendrait fou avant d'être arrivé à la Madeleine ou à la colonne de la place Vendôme. Il ne fait certes pas plus mort dans le pays où s'en allait la pauvre enfant que nous avons rencontrée en venant du débarcadère du bateau à vapeur à la villa Bezborodko et que l'on transportait à sa dernière demeure sur son catafalque noir dans sa bière en drap d'argent. Pauvre peuple, est-ce l'habitude de l'esclavage qui t'a donné celle du silence ? Parle donc, chante donc, lis donc, sois donc joyeux. Tu es libre aujourd'hui. Oui, je le comprends, il te reste à prendre l'habitude de la liberté. Un moujik à qui vous dites « Eh bien, te voilà libre maintenant !» vous répond « Excellence, on le dit. » Quant à lui, il n'en croit rien. Pour croire à une chose, il faut la connaître. Et le paysan russe ne sait pas ce que c'est que la liberté. pour faire crier « Vive la Constitution !» à leur révolté de 1825, Mouraviev, Pestel et Rileïev avaient été obligés de leur faire accroire que la Constitution était la femme de Constantin. Au reste, ne croyez pas que cette ignorance fera manquer son effet à l'oukas de l'empereur Alexandre II sur l'émancipation des serfs. Non, loin de là. Elle lui en donnera même, selon toute probabilité, un autre que celui qu'on en attend. Mais c'est une question si grave, nous parlons de celle de l'émancipation, que nous l'examinerons à part. Le parc renferme en outre un théâtre. Il est question d'y jouer l'invitation à la valse et une pièce russe du comte, aussitôt qu'un de mes amis qui doit nous rejoindre, le vicomte de Sancillon, sera arrivé de Paris. Sans dîner, nous n'eussions jamais pu croire qu'il était déjà 6 heures du soir. Sans les bougies et les lampes allumées par habitude, nous aurions juré qu'il était 6 heures du soir à minuit. Rien ne vous donnera, cher lecteur, l'idée d'une nuit de juin à Saint-Pétersbourg. Ni la plume, ni le pinceau. C'est quelque chose de magique. En supposant que les Champs-Élysées existent et soient éclairées par un soleil d'argent, c'est la teinte que doivent avoir les beaux jours des morts. Figurez-vous une atmosphère gris-perle, irisée d'opale, qui n'est ni celle de l'aube, ni celle du crépuscule. Une lumière pâle sans être maladive, éclairant les objets de tous les côtés à la fois. Nulle part une ombre portée. Des ténèbres transparentes, qui ne sont pas la nuit, qui sont seulement l'absence du jour. Des ténèbres à travers lesquelles on distingue tous les objets à une lieue à la ronde. Une éclipse de soleil, sans le trouble et le malaise qu'une éclipse jette dans toute la nature. Un trouble qui vous rafraîchit l'âme, une quiétude qui vous dilate le cœur. Un silence pendant lequel on écoute toujours si l'on n'entendra pas tout à coup le chant des anges ou la voix de Dieu. Aimer pendant de pareilles nuits, ce serait aimer deux fois. J'ai, par une de ces nuits, comme les a chantées Virgile, comme les a peintes Théocrite, glissé sous le souffle d'une brise insaisissable dans le golfe de Baïa, dans la baie de Naples, dans la rade de Palerme, dans le détroit de Messine. Couché sur le pont de ma barque, riche de mes rêves de jeunesse, j'étais jeune alors, j'ai regardé, en essayant inutilement de les compter, ces millions d'étoiles qui constellent l'azur profond du ciel, qui couvrent du même dais la Sicile, la Calabre et la Grèce. J'ai vu Alger mirer la nuit ses blanches maisons, ses jardins plantés de bananiers et de sycomores dans la mer d'Afrique. J'ai vu Tunis s'endormir d'un sommeil passager au même lieu où Carthage dort du sommeil éternel. J'ai vu l'amphithéâtre de Djemdjem découper ses arcades romaines au milieu du désert sous l'ardente lumière d'une nuit d'août. Je n'ai rien vu de pareil aux nuits de Saint-Pétersbourg. La première de ces nuits, celle de mon arrivée, je la passais tout entière sur le balcon de la villa Bezborodko, sans penser, malgré la fatigue des nuits précédentes, un seul instant au sommeil. Moinet était près de moi, anéanti comme moi par ce spectacle tout nouveau pour nous. Nous admirions, sans nous communiquer notre admiration. La Neva, immense, roulait à nos pieds un fleuve d'argent. Les grands bateaux, qui sont des hirondelles, la descendaient et la remontaient silencieusement, les ailes étendues, laissant derrière eux un léger sillage. Pas une lumière ne brillait sur l'une ou l'autre de ses rives, pas une étoile ne veillait au ciel. Tout à coup, Un globe d'or parut à notre extrême gauche, au-dessus d'un bois vert sombre, sans nuance, coupant un ciel de nacre par la vigoureuse silhouette de ses vagues feuillues. Le resplendissant bouclier monta lentement dans le ciel, sans rien ajouter à la transparence de la nuit. Seulement une immense ligne d'or fusible s'allongea en tremblotant sur le fleuve, dont elle rendit, mais seulement dans son étendue, le cours visible, nuançant d'une teinte de flamme les barques ou les navires qui le traversaient, et qui, une fois qu'il l'avait traversé, semblait perdre non le mouvement mais la vie. Puis, lentement, majestueusement, fièrement, avec la sérénité d'une déesse, la lune alla se perdre derrière les coupoles de Smolnoï, qui se découpèrent en vigueur sur elle pendant tout le temps qu'elle mit à descendre de la croix qui couronne leur fête jusqu'aux abîmes de l'horizon. Pouchkine, ce grand poète russe dont je vous ai déjà parlé et dont je vous parlerai souvent encore, parce que, comme les grands poètes nationaux, il a touché à toute chose, a essayé de peindre ces belles nuits dans de beaux vers. À notre tour, nous allons vous donner une idée des vers de Pouchkine. Mais n'oubliez pas qu'une traduction n'est jamais à l'original que ce que la clarté de la lune est à celle du soleil. Oui, je t'aime, cité création de pierre, j'aime le morne aspect de ta large rivière, j'aime tes dômes d'or où l'oiseau fait son nid, et tes grilles d'airain et tes quais de granit. Mais ce qu'avant tout j'aime, ô cité d'espérance, c'est de tes blanches nuits la molle transparence qui permet quand revient le mois heureux des fleurs que l'amant puisse lire à tes douces pâleurs le billet attardé que d'une main furtive traça loin de sa mère une amante craintive. Alors, sans qu'une lampe aux mouvantes clartés dispute à mon esprit ses rêves enchantés, par toi seul guidé, poète au cœur de flamme, sur le papier brûlant je verse à flots mon âme. Et toi, pendant ce temps, crépuscule argenté, tu parcours sur ton char la muette cité, versant au malheureux dans ta course nocturne le sommeil, doux breuvage échappé de ton urne, et regardant au loin comme un rigide éclair l'amirauté dressant son aiguille dans l'air. Alors, de notre ciel par ton souffle effacé, vers le noir occident l'ombre semble chasser, et l'on voit succéder de la main se touchant la pourpre de l'aurore à celle du couchant. Les vers de Pouchkine sont beaux, mais les nuits de Saint-Pétersbourg. Les vers de Pouchkine ne sont que la poésie de l'homme. Les nuits de Saint-Pétersbourg sont la poésie de Dieu.